France Culture.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'esprit public. Aujourd'hui, de Badinter à Darmanin, la République en panne, avec Blanche Leridon, Marc Lazare, Michel Cotta et Louis Osalter. Une émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa.
J'ai forcément raté plusieurs choses, mais si j'ai un regret sur la composition du gouvernement, c'est que j'ai désormais l'intime conviction que l'équipe qui devra prendre les responsabilités dans les temps à venir, quelle qu'elle soit, quel que soit le choix du président de la République, devra être une équipe qui est complètement déconnectée des ambitions présidentielles pour 2027. Car au fond, la situation est déjà suffisamment difficile. Il faut qu'on ait au fond une équipe qui décide de se retrousser les manches et de régler les problèmes du pays jusqu'à l'élection présidentielle. Et c'est bien légitime, des équipes pour un beau débat démocratique qui se prépare à l'élection présidentielle 2027.
Un Premier ministre démissionnaire en fin de mission, Sébastien Lecornu, le 8 octobre, au journal de 20h sur France 2. Sans surprise, mais suscitant l'incompréhension générale, il est renommé 4 jours plus tard par un président de la République, Emmanuel Macron, plus isolé que jamais en son palais. Palais qu'il a ouvert au parti, ouvert à la discussion vendredi, en concédant un demi-pouce sur la réforme des retraites qui se retrouve, comme depuis 2 ans, au centre des discussions. Les Républicains, divisés au point de s'insulter, ont tout fait capoter dimanche soir par un tweet impulsif de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur à peine nommé, qui s'est auto-démis, suscitant la chute du gouvernement sans même passer par la case motion de censure. D'inédit en inédit, la Ve République résiste, innove, et dans ce triste cirque, un moment suspendu. L'ancien avocat garde des Sceaux, père de l'abolition de la peine de mort le 9 octobre 1981, entre au Panthéon le 9 octobre 2025. Entre ici, Badinter a voulu jeudi dernier le président de la République qui louait le parcours du combattant de la vie et des libertés, dont la tombe a été profanée le matin même. Encore une insulte à sa mémoire, combat qu'il pensait permanent. Son héritage est-il encore en partage? 44 ans séparent le panthéonisé de l'ère Macron de son lointain successeur aujourd'hui démissionné, Gérald Darmanin, sans successeur nommé, place Vendôme. Que s'est-il passé pendant ces 4 décennies politiques aussi riches qu'incertaines? On en parle avec 4 invités. Bonjour Michel Cotta.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste depuis les débuts de la Ve République et je cite vos derniers ouvrages, Ma Cinquième chez Bouquin en 2023, Les Derniers Grands chez Plomb en 2024 et celui de Robert Badinter, Vivre, tiré d'entretien avec vous et Patrice Duhamel en partenariat avec l'INA. En face de vous, Louis Osalter, bonjour.
Bonjour.
Journaliste politique au Figaro, auteur de La Foudre et les Cendres, Macron, les secrets d'une succession interdite à l'Observatoire, ça vient de paraître jeudi dernier. Blanche Leridon est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, spécialiste des questions démocratiques et institutionnelles, enseignante à Sciences Po. Et enfin, Marc Lazare, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et à l'Université Louis à Rome. Vous publiez le 30 octobre Pour l'amour du peuple, histoire du populisme en France, 19e-21e siècle. C'est chez Gallimard. Et j'aimerais qu'on commence avec vous, Michel Cotta, puisque j'ai dévoré ce livre paru en 2023 chez Bouquin, Ma Cinquième, dans lequel vous racontez que vous êtes dans les tribunes de l'Assemblée nationale le 13 mai 1958. On s'apprête alors à investir Pierre Pflimlin, avant-dernier président du Conseil de la 4e République avant De Gaulle. Il restera 18 jours. Et vous écrivez, au tout début, dans l'introduction, à l'Assemblée nationale, tous les journalistes prenaient conscience de l'inexorable déclin de la 4e République, sans savoir que la fin était si proche. Est-ce que vous ressentez la même chose à propos de la 5e aujourd'hui ?
En réalité, pas tout à fait. Je sens effectivement que la 5e République se porte pas bien, et je suis pas sûre qu'elle dure longtemps. Hein. Je pense qu'on est quand même vers un chemin assez rapide, mais pas aussi rapide que en 1958. Non, je sens surtout que, au bout du compte, ce qui était différent, au fond, c'est la perception de la trouille en 1958. Ils avaient vraiment très peur, parce que les députés avaient peur d'être jetés à la Seine par les parachutistes qui étaient annoncés. Donc la peur d'une guerre civile était là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit de temps en temps, il peut y avoir une guerre civile. ça peut dégénérer en guerre civile, mais la terreur n'est pas immédiate. Et voilà. Et puis ce qui change aussi, c'est que je vais défendre quelqu'un qui est tombé dans l'oubli depuis longtemps, mais il y avait là un président de la République qui finalement a imposé son choix. Et c'est très important parce que le président de la République finalement sur la 4e avait moins d'importance que sur la 5e, mais en tout cas il a imposé son choix. Il a dit je veux De Gaulle et ce sera De Gaulle. Et si c'est pas De Gaulle, je démissionne. Bon, la présence du président de la République était quand même plus marquante et plus intéressante. Intéressante à ce moment-là, voilà.
Louise Alter, vous sortez ce livre à point nommé La foudre et les cendres, qui raconte la fin de ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Et j'ai l'impression que vous datez ce crépuscule à la dissolution de 2024.
Alors oui, en tout cas, c'est le moment où il se matérialise, parce que la particularité pour Emmanuel Macron, c'est que tous les présidents, Michel Cotta le sait parfaitement mieux que nous tous, une fin de règne répond un peu au canon d'une tragédie classique. Voilà, le personnage principal est maudit, il est condamné d'avance, il le sait, et donc les courtisans s'en vont, tout le monde complote dans son dos pour essayer de prendre la place. La particularité d'Emmanuel Macron, c'est que il a accéléré lui-même sa propre fin de règne et son propre crépuscule. Alors effectivement, la dissolution est l'acte tragique, tragicomique même peut-être, qui vient matérialiser cela. Mais en réalité, et dans mon livre, j'essaye aussi de retracer ça, je crois que le grand malentendu se noue un petit peu plus tôt. Je pense qu'on peut le dater de l'année 2022. Avec cette double élection dans laquelle il y a quelque chose là qui commence à dérailler. D'abord une campagne présidentielle qui est une non-campagne présidentielle. Parce que, et c'est indépendant évidemment de la volonté d'Emmanuel Macron comme de tout de la classe politique française, la guerre en Ukraine vient saturer le débat, ou plutôt le vitrifier. Donc nous n'avons pas en 2022 le débat à la fois sur la personne du président et sur le fond des sujets à trancher, qui normalement est nécessaire tous les 5 ans à la vie démocratique d'un pays comme la France, où le césarisme présidentialiste reste très important. Et puis il y a la campagne des législatives qui suit, où Emmanuel Macron ne s'implique pas plus, il ne fait pas campagne, ou alors plutôt sa campagne c'est des sommets internationaux, des appels avec Poutine, bref, une sorte de surplomb international. Mais la réponse législative, elle est déjà très intéressante et elle contient le malentendu qui nous amène là où nous sommes. Les Français réalisent Emmanuel Macron, mais par défaut, parce qu'une nouvelle fois Marine Le Pen est en face. Et comme disait Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, elle l'a dit à Emmanuel Macron en face sur un plateau télé, même moi j'ai voté pour vous. Ça traduit bien le malaise qu'il y a en fait dans cette réélection. Et aux législatives, les Français, peuple très politique, disent d'accord pour Emmanuel Macron, mais pas d'accord pour le macronisme en quelque sorte. Et là, Emmanuel Macron n'en tient pas immédiatement compte. C'est-à-dire qu'il il continue à agir comme s'il avait une majorité absolue alors qu'elle n'est que relative. Et là vient l'enlisement. Et c'est pour se sortir de cette situation, parce qu'il déteste être contraint, il a un tempérament où non seulement il aime avoir les mains libres, mais il déteste quand la contrainte, une contrainte dépend de ses adversaires politiques. C'est pour cela qu'il dissout l'Assemblée nationale. Il y a la part de vexation qui est liée à la défaite des élections européennes, mais au fond, s'il dissout, c'est aussi parce que cette majorité relative, cette situation de contrainte dans laquelle il était plongé, ne lui convient pas. Donc je crois que le grand malentendu date d'un petit peu avant. Effectivement, la dissolution vient matérialiser, bien sûr, les racines de tout ce qui nous arrive aujourd'hui.
Blanche Loridon, votre regard sur cette semaine, et je mets dans la discussion cette phrase de Jérôme Guedj, le député socialiste hier sur RFI, qui déclare « c'est la déchéance de rationalité ».
C'est intéressant de se replonger à l'issue de cette semaine un petit peu sur tout ce qu'elle a, sur tous les enchaînements. Moi, ce que j'en retiens, c'est peut-être l'immense choc des temporalités. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la petite politique politicienne agonisante avec le gouvernement, rappelons-le, le plus bref de l'histoire de la Ve République. Et puis de l'autre, l'éternité promise à Badinter, place des grands hommes au Panthéon. Et moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron n'accorde-t-il pas autant de soins à ses choix et à ses nominations de Premier ministre qu'à ses panthéonisations? Parce qu'on a quand même eu droit à une assez belle cérémonie jeudi et qui a été un petit peu éclipsée malheureusement du fait du chaos politique, et les regards se sont d'emblée détournés ou alors ont essayé de chercher dans la locution présidentielle qu'il a clôturé la séquence de jeudi des éléments qui permettraient de lire entre les lignes pour avoir une petite idée de ce qu'il s'apprêtait à faire, et je crois que tout le monde est reparti un petit peu bredouille de ce point de vue là. Donc oui, il y avait d'un côté l'immense amateurisme, impréparation et puis puis surtout, je disais, ce très très court terme et cette rapidité de cette nomination d'un nouveau gouvernement qui, 14 heures plus tard, chute. Et puis de l'autre, quand même, un temps, et c'est important d'y revenir en fin de semaine aujourd'hui, qui est celui du temps long, des grands hommes, de leur combat. On va sûrement en reparler, ceux de Badinter, pas seulement sur la peine de mort, mais aussi sur la dépénalisation de l'homosexualité, sur les prisons et sur l'état de droit. Et là aussi, on y reviendra, j'imagine, dans l'émission. Et si j'essaie de faire un peu des analogies entre ce passé-là et ce qu'on a vécu cette semaine, je pense qu'Emmanuel Macron avait dans un petit coin de sa tête, au moment où il prenait la parole au Panthéon jeudi soir, l'idée que, oui, Badinter, en 81, avait raison contre tout le monde. C'est-à-dire qu'il était très peu populaire dans l'opinion. On sait à quel point les Français étaient hostiles à l'abolition, une partie large, en tout cas, des Français étaient hostiles à l'abolition en 81. Et finalement, l'histoire lui a donné raison. Et peut-être qu'Emmanuel Macron a envie de se positionner un petit peu comme ça, de dire, ben oui, aujourd'hui, tout le monde me hait, mais vous verrez plus tard, l'histoire me donnera raison. Et la deuxième analogie, on dit souvent que Badinter est l'avocat des causes perdues. Je crois que Sébastien Lecornu peut être qualifié d'un avocat aujourd'hui d'une cause perdue, celle d'essayer de sauver ce qu'il reste du macronisme, ou en tout cas d'essayer de former un gouvernement dont, semble-t-il, la base de soutien est encore plus réduite qu'elle ne l'était il y a une semaine encore. Et donc tout ça, évidemment, je ne suis pas du tout une partisane du « c'était mieux avant », mais quand on compare les deux situations, quand on compare le type de politique et d'homme politique entre ceux de 81 et ceux d'aujourd'hui, on ne peut malheureusement que déplorer l'immense écart.
Marc Lazare.
Mais d'abord, on pourrait esquisser une comparaison, alors c'est toujours très risqué, mais vous avez rappelé, Louis, 2022, mais on pourrait rappeler 1988. C'est-à-dire la deuxième grande campagne de François, enfin pas la deuxième, mais en tout cas la possibilité pour lui qui lui a été donnée de se représenter, il n'avait pas fait campagne. Il n'avait pas fait campagne, François Mitterrand, 1988, à la différence de 1981. C'était extraordinairement soft, si j'ose dire, en bon français. Et il n'avait pas eu une majorité absolue à l'issue des législatives, puisque ça a été le gouvernement de Michel Rocard, avec toute la perversité de François Mitterrand de nommer Michel Rocard à ce poste pour essayer, ce qu'il a réussi, à le disqualifier en politique. Alors, je pense qu'il y a une malédiction du second mandat, incontestablement, et Emmanuel Macron la paye très très cher. Mais je crois qu'il y a une leçon peut-être à tirer, c'est que 2022, à partir du moment où il y avait une majorité relative, vous l'avez, mais tout à fait raison, il y a la volonté du président en permanence de rester aux manettes, mais depuis des années, les partis politiques expliquaient qu'il fallait rétablir un peu plus de pouvoir au Parlement. Tous, tout le monde disait ça. Et la grande leçon, je crois, qui est en train de se dégager et qui est très risquée pour le fonctionnement de la Ve République, c'est que finalement, il n'y a pas que Macron qui est responsable. C'est l'ensemble des formations politiques qui, à l'occasion justement de cette majorité relative de 2022 et encore plus de 2024, avaient peut-être la possibilité d'essayer de montrer et de démontrer qu'on pouvait pratiquer une démocratie parlementaire. Et ça, on l'a vu que pour le moment, en tout cas, peut-être un miracle là dans les jours qui viennent, que ça va se réaliser. Personnellement, j'y crois peu. Et donc ça, c'est un élément tout à fait important. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait qu'on est en train de démultiplier la défiance politique à l'égard des responsables politiques et des institutions. On a un Premier ministre, Lecornu, démissionnaire, qui dit « plus jamais, c'est fini pour moi ». Bon, certes, il dit « je suis un moine soldat », donc on pouvait s'attendre à ce que le moine soldat serve encore le président de la République, mais enfin, qui avait dit « c'est fini pour moi » devant les Français, avec une émission de télévision particulièrement suivie. On a un président de la République qui nous a expliqué que cette réforme des retraites, alors, il y a une très belle formule en Italie, c'était la mère des réformes, hein, donc c'était la réforme cruciale, c'était quasiment une question de vie ou de mort, et maintenant qu'il laisse entendre qu'il pourrait revenir sur cette réforme. Alors ça, pour la dévalorisation de la parole politique, c'est considérable, considérable. Pour ceux qui se sont opposés à cette réforme, et Dieu sait qu'ils étaient nombreux, c'est la majorité de l'opinion, on voit bien que cette réforme a été très mal conçue, très mal organisée, très mal, entre guillemets, vendue, mais ça redouble leur hostilité. Et pour la minorité de Français qui était favorable à la réforme, voilà que leur président de la République, ceux vraiment qui ont voté pour lui parce qu'ils étaient d'accord, il y a quand même une partie des Français, à peu près un quart des Français qui étaient d'accord avec Emmanuel Macron, se trouvent littéralement sidérés par la position du président de la République.
Michel Cotta, en 44 ans, que s'est-il passé pour que les majorités stables produites par la 5e, qui a supporté l'alternance et trois cohabitations, tout saute à ce point ? Frôle-t-on la crise de régime ?
Il s'est passé beaucoup de choses, parce que vous êtes en 2022, c'est vrai, moi je crois que tout commence, enfin beaucoup de choses commencent en 2022, mais tout de même, nous nous sommes tous demandés depuis 2017, comment est-ce que Macron n'était pas arrivé à faire un parti ? On savait tous quand même, on sait tous que, bien sûr, c'est la Ve République, et qu'enfin, il faut un corps, un parti assez solide, assez étayé, et au bout du compte, il n'y est pas arrivé à le faire, ce parti. Le parti de Macron n'a jamais vraiment existé, ou jamais été majoritaire. Et c'est vrai qu'on pouvait se dire, en 2017, c'était le moment où jamais il était élu, il y avait un courant, bon, et ben, on s'est aperçu que quand même, qu'est-ce qui résistait ? C'était la gauche d'un côté qui s'est radicalisée et la droite qui était déjà en partie radicale. Le centre, au fond, ne s'est jamais implanté, quels que soient les désirs de François Bayrou depuis longtemps, et depuis plus récemment d'ailleurs, et quels que soient les désirs d'Emmanuel Macron. Donc je me demande si finalement la Ve République était quand même faite pour avoir une majorité et une opposition. L'opposition pouvait devenir à certains moments majoritaire. Et c'était une cohabitation, ce qui était déjà une invention fantastique que François Mitterrand a su faire bien fonctionner. Moyennant quoi, là, on s'aperçoit qu'avec un tripartisme, ça marche pas. Voilà. Et donc, ça marche pas depuis, en réalité, plus longtemps que ça, plus longtemps que 2022. Et ça explique peut-être l'espèce de sidération de Macron pendant toute la campagne électorale, présidentielle et législative qui a suivi. En se disant que finalement, il savait déjà pas où ça allait. Voilà. Moi, je pense quand même qu'il y a eu en 2022, en tout cas, une vraie interrogation d'Emmanuel Macron. Donc, je sais pas jusqu'où elle est allée. Est-ce qu'elle est allée jusqu'à une réflexion épouvantée ou au contraire une volonté de s'en sortir? Mais si on regarde au fond, est-ce que ça a marché à un moment donné ?
Louis Osalta.
Ce qu'il ne fait pas à ce moment-là, surtout, c'est une coalition, c'est-à-dire bricoler quelque chose, parce qu'il est en majorité relative, qui aurait pu en tout cas marcher et éviter la pente qui l'a mené précisément à la dissolution. Sauf qu'on entend depuis la dissolution, et ça s'accentue ces derniers mois, on entend les injonctions à, au fond, devenir l'Allemagne ou à devenir l'Italie, à devenir un régime qui, en effet, fonctionnerait par coalition, où les partis se mettraient d'accord, donnons-nous la main, on va pondre un programme qu'on mettra au propre, et on l'appliquera, et chacun dira sur ce sur quoi il est d'accord et ce sur quoi il est en désaccord. On peut rêver de ça. Moi, je pense qu'on ne deviendra pas allemand, en tout cas pas en un an et demi, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Marc Lazare à cet égard-là. La culture française, la culture politique française, n'est pas parlementariste. Ça ne veut pas dire que notre régime n'a rien de parlementaire. Évidemment, même dans sa conception, son esprit aux origines, c'est plutôt un régime parlementaire. Mais le présidentialisme, pour le meilleur et pour le pire, est tellement ancré dans la culture, non seulement de l'opinion, mais aussi de la classe politique. On le voit très bien. Pourquoi il y a un blocage actuellement dans la classe politique ? Parce que tout le monde, ou presque, prépare l'élection présidentielle. Et que si vous calculez le coût et opportunité, cette balance de coûts et d'opportunité, entre essayer de sauver un gouvernement, de participer à un gouvernement maintenant sur un programme même minimal, qui pourrait tenir un an et demi, l'année et demie qui nous sépare de la fin du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, et l'autre alternative qui est de se concentrer sur la présidentielle, donc de rester en retrait, d'expliquer que c'est un cirque et qu'il ne faut pas y participer, c'est exactement ce que fait Édouard Philippe par exemple, et de bâtir de votre côté personnellement, individuellement, parce que ce sont des gens qui vont vers une élection personnelle, individuelle et incarnée, eh bien le choix il est vite fait, et on voit qu'il est fait par des partis, quelles que soient d'ailleurs leurs origines politiques. On voit qu'à gauche aussi, cette idée habite absolument tout le monde, à commencer par Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, nous ne sommes pas devenus allemands depuis la dissolution de l'été 2024, je crois que nous ne le deviendrons pas dans les mois qui viennent, et Emmanuel Macron lui-même, il y a un paradoxe entre ses injonctions à s'entendre, à faire des coalitions, des compromis, et c'est ce qu'il explique depuis des mois pour essayer de sauver son deuxième quinquennat, et son rôle à lui, qui n'est pas du tout, le rôle qu'il se donne n'est pas du tout celui d'un président de régime parlementaire. Ça n'est même pas René Coty en 1958. Ça reste un président qui veut absolument rester au centre du jeu, et son entêtement à nommer, renommer Sébastien Lecornu en est la meilleure preuve cette semaine.
Blanche Loredon.
Et puis, un régime parlementaire, c'est aussi un régime où les élus n'ont pas peur de retourner devant le peuple. Oui. Je voudrais poursuivre ce que disait Marc Lazare à l'instant, s'agissant de cette démonétisation, de la parole politique. Vous avez bien sûr le recul sur la réforme, la mère des réformes du macronisme. Vous avez aussi le changement radical de tonalité s'agissant de la question budgétaire. Souvenez-vous, le ton anxiogène de l'année dernière qui était dans la bouche de l'ensemble des ministres du gouvernement de l'époque sur la carte vitale ne fonctionnera plus si nous n'avons pas de budget. Et il y avait cette espèce de stupeur et de discours vraiment très anxiogène à l'époque. Aujourd'hui, il y a presque une espèce de désinvolture. Et là aussi, je ne dis pas qu'un discours était meilleur que l'autre. Là, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, mais le décalage immense entre la rhétorique de 2024 et celle de 2025, elle participe aussi de cette démonétisation-là. Parce que comment est-ce qu'en un enjeu qui aurait été absolument existentiel il y a 12 mois serait devenu quasiment anecdotique 12 mois plus tard. Donc ça, pour moi, ça participe de cette démonétisation-là. Et autre point, c'est-à-dire que celle qui s'en sort, on s'interrogeait un petit peu sur où sont les oppositions, celle qui s'en sort le mieux dans cette séquence, c'est Marine Le Pen. Pendant que tout le monde tergiversait, discutait à Matignon, elle était où ? Eh bien, elle était au sommet de l'élevage, à Cournon d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, auprès des agriculteurs. Et elle disait, ben, regardez, eux, ce système, et là, on revient dans la grande rhétorique FNRN sur la stigmatisation d'un système, de l'UMPS, tous pareils, etc. Ben, eux, ils essaient de s'entendre. Et ils essaient de s'entendre pourquoi ? Parce qu'ils ont peur du retour aux urnes. Et nous n'avons pas peur du retour aux urnes. Et ça, effectivement, en termes de communication politique, c'est gagnant. Et là, l'impression que cette tragicomédie donne, c'est qu'on a des politiciens qui font tout pour éviter ce retour aux urnes. Et ça, je pense que ça participe aussi de cette démonétisation et que c'est dramatique pour la confiance qu'auront nos concitoyens à l'égard de nos politiques.
Marc Lazare.
Oui, je crois que c'est très très fort, parce que c'est un argument clé du populisme. Évidemment, les autres partis ont peur de l'élection. Nous n'avons pas peur du peuple. Et donc, allons à la dissolution. C'est un argument hyper percutant. Et c'est vrai que l'attitude d'un certain nombre de responsables politiques aujourd'hui pour dire il faut absolument éviter la dissolution, même si elle est argumentée sur un discours parfois de responsabilité. Il faut établir un budget, la situation de la France est très grave, attention au rôle de la France en Europe et dans le monde. Donc il y a une part évidemment de vérité dans ce discours. Ça risque d'être interprété comme exactement Marine Le Pen le propose, c'est-à-dire ils ne veulent pas retourner devant vous et nous sommes l'expression du peuple, nous n'avons pas peur du peuple. Deuxième petite réflexion, il y a quand même à réfléchir parce que tous les pays européens sont dans des situations de crise démocratique. Et donc, quelle est la spécificité française ? C'est la grande question. Et je pense qu'il y a deux explications possibles. Il y en a une qui est tout focalisée sur le président de la République. C'est-à-dire, tout est de la faute de Macron. Et puis, je pense, moi, qu'il y a une réflexion maintenant, vous l'avez ouverte, Michel Cotta, tout à l'heure, c'est quelle est la part de responsabilité de nos propres institutions ou de la pratique des institutions ? Et ça, c'est vraiment une très grande question. Et moi, la réflexion que je me fais, c'est qu'actuellement, vu la pratique qui a été faite notamment par Emmanuel Macron, mais d'autres présidents l'avaient fait aussi, on en vient à s'interroger sur le fait que la Ve République avait été capable soit de s'adapter, la cohabitation, soit de surmonter des crises d'une gravité extrême, la guerre d'Algérie, mai 1968. Et ici, on a l'impression que la pratique des institutions est un accélérateur de la crise démocratique, au point qu'elle a encore une plus grande intensité, me semble-t-il, aujourd'hui, en France que dans les autres pays européens. Et donc, ça débouche évidemment sur la grande question, quel type de réforme faut-il faire ? Alors, la France Insoumise propose la 6e République, je pense qu'il y a d'autres méthodes, mais ce qui va sortir obligatoirement pour 2027, ça va être une réflexion sur nos pratiques institutionnelles, voire sur les institutions elles-mêmes. Je pense qu'on n'y évitera pas à l'issue de ces deux mandats présidentiels, si jamais le mandat d'Emmanuel Macron va jusqu'au bout, ce qui n'est pas garanti actuellement.
Et est-ce que ça doit passer, selon vous, par une réforme du mode de scrutin ? Est-ce que la proportionnelle induirait plus de discussions après l'élection entre les partis, Michel Cotta ?
Moi, a priori, je n'ai pas du tout de sentiment négatif pour la représentation proportionnelle, mais je me demande ce que ça changerait aujourd'hui. Parce que quand on voit la division que le système majoritaire n'est pas parvenu à éviter, on se dit qu'effectivement, peut-être l'avantage d'élection la proportionnelle serait que dès le début et dès l'élection, les candidats pourraient envisager et dire quelle sorte de stratégie ils envisagent. Donc après, les choses seraient peut-être plus faciles pour faire une coalition. Mais autrement, elle ne s'est sûrement pas plus facile pour refaire l'unité de la classe politique française. Et à propos de la classe politique française et ce qu'on dit sur Marine Le Pen, je suis quand même étonné, pour ne pas dire bouleversé, à l'idée que ce péril de Marine Le Pen à l'Élysée ne parvient pas à fédérer les différents autres partis entre eux. Alors pourquoi ? Il faut quand même se demander pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, chacun des partis a un intérêt peut-être différent à ce que Marine Le Pen finisse par arriver au pouvoir. Et ça, ça me paraît très dangereux. Les Républicains, c'est évident, ils sont divisés. On voit maintenant que 40% d'entre eux, environ, seraient prêts à suivre Éric Ciotti. Je me rappelle le scandale qu'Éric Ciotti a provoqué il y a 2 ans. C'est complètement oublié. Tout le monde a l'air de dire que c'est un précurseur. Bon. Et puis, peut-être que du côté de Jean-Luc Mélenchon, ils se disent qu'il nous faut un bon choc pour prévoir toutes nos armes, pour sortir nos armes, peut-être. Et c'est ça que c'est différent, et pour éviter. Mais ça donne l'impression que la classe politique française est quand même totalement irresponsable. Voilà.
Éric Ciotti, c'était en effet l'année dernière, en 2024, mais le Front républicain a quand même très bien fonctionné. La société civile s'est mobilisée comme jamais en termes de participation. Louis Alter, vous partagez ?
Les sondages nous montrent que une nouvelle élection législative anticipée, provoquée par la dissolution, donnerait un score très élevé au Rassemblement national pour le premier tour à nouveau. La réponse à laquelle qu'ils n'ont pas, en fait, dans l'état actuel des choses, notamment parce qu'il n'y a pas de projection de sièges qui sont très difficiles à faire par les temps qui courent, c'est en effet de savoir si le Front républicain fonctionnerait à nouveau ou pas. Je pense que dans l'électorat de gauche, il n'y a pas tellement d'évolution par rapport à ça. Je ne vois pas pourquoi la plupart des électeurs de gauche ne retourneraient pas faire barrage contre le Rassemblement national. Ça reste un refrain important et très mobilisateur pour les différents partis de gauche. Mais peut-être y aurait-il plus d'abstention dans cet électorat à cause de l'écœurement qui est produit par les derniers mois et les dernières semaines. La clé, c'est l'électorat centriste ou ce qu'il en reste. Parce que à qui bénéficie d'abord le Front républicain de l'été 2024 ? À Emmanuel Macron, en tout cas à son camp. Alors son camp n'est pas content de s'être fait dissoudre par la dissolution, mais c'est grâce au barrage républicain du second tour que des députés macronistes sauvent leur siège, y compris d'ailleurs des députés de droite, des députés LR qui aujourd'hui, en effet, semblent complètement tiraillés entre le macronisme finissant et le RN triomphant. Donc il n'est pas dit, vraiment la clé, je pense, est dans cet électorat qui soit pourrait en effet s'abstenir orphelin d'un nouveau champion, soit carrément basculer au RN, mais en tout cas, ne pas forcément participer à ce barrage qui, quelque part, est aussi responsable de la situation. Parce que si le barrage républicain n'avait pas eu lieu, le Rassemblement national aurait eu une majorité sans doute pas absolue, mais aurait eu une majorité. Et ce serait donc trouvé face à l'équation d'accepter le pouvoir ou non. Vous avez, mettons qu'il y ait une nouvelle élection législative. Mettons que le RN améliore encore son nombre de sièges, dépasse par exemple le nombre de 200 sièges à l'Assemblée nationale. La majorité absolue est à 289. Que font Marine Le Pen et Jordan Bardella ? Est-ce qu'ils acceptent le pouvoir, même contraint par une majorité relative, essayent d'aller chercher des alliés et on imagine qu'ils se tourneront d'abord vers ce qui reste des républicains pour essayer de bricoler une coalition ? Ou est-ce qu'ils disent, nous restons dans la conception du fait majoritaire et s'il n'y a pas de fait majoritaire, nous ne pouvons pas gouverner ? Ça, ça pose des questions institutionnelles qui sont très très importantes et pas tranchées.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villene.
Vous écoutez France Culture et nous sommes toujours en compagnie de Louis Osalter, journaliste politique au Figaro, Michel Cotta, journaliste, autrice de Ma Cinquième chez Bouquin en 2023 et des Derniers Grands chez Plomb en 2024, Marc Lazare, professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et à l'Université Louise de Rome, et Blanche Leridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne.
Vous m'avez fait honte ! Vous m'avez fait honte ! En pensant à ce qui s'est passé là, vous m'avez fait honte. Il y a des moments où il est dit dans la parole, les morts vous écoutent. Croyez-vous qu'ils écoutent cela ? Je ne demande rien, aucun applaudissement. Je ne demande que le silence que les morts appellent. Taisez-vous ou quittez à l'instant ce lieu de recueillement. Vous déshonorez la cause que vous croyez servir.
On vient d'entendre la colère de Robert Badinter, président du Conseil constitutionnel, le 16 juillet 1992, lors des commémorations des 50 ans de la rafle du Vel'd'Hiv, ici à la tribune, après des sifflets adressés au président Mitterrand, qui n'avait pas voulu reconnaître le rôle de l'État français dans cette rafle. Le président Macron qui a repris ces mots au Panthéon lors de son hommage, les morts nous écoutent, c'était jeudi dernier. Marc Lazare, vous qui travaillez sur les populismes, est-ce que cette période-là, l'élection de François Mitterrand, quand il prend engagement, quand il se dit favorable à l'abolition de la peine de mort en mars 1981, à quelques semaines du premier tour, est-ce que c'était de l'antipopulisme pur?
Ben, d'abord, on parlait peu à l'époque de populisme. Le mot était pas tellement employé. En fait, ça va émerger un peu plus tard, mais bon, c'est un autre discours. Non, François Mitterrand a fait preuve, employons un grand mot, de courage politique. Ça n'a pas toujours été le cas de François Mitterrand. Hein. Mais là, oui, incontestablement, il est interpellé par Alain Duhamel dans une émission de télévision particulièrement suivie à l'époque. C'était aussi un grand moment. On est dans un contexte politique qui est très éloigné du nôtre. Hein. Il y a une gauche contre une droite contre une gauche. La France est divisée en deux. Ça fait 23 ans que la gauche n'est pas au pouvoir depuis l'institution de la Ve République. Et François Mitterrand était interrogé. Il prend son souffle. On le voit. Bon, cette émission a été republiée. Enfin, on a pu la revoir récemment dans un documentaire sur Robert Badinter. Il regarde ses interlocuteurs et il dit peut-être, je crois même qu'il ajoute, peut-être je risque de perdre, je risque de choquer. Mais là, non. Et je crois que c'est effectivement un grand moment de politique en France. Et ça a contribué à la fois... de toute façon, François Mitterrand a emporté cette élection. Mais je crois que ça a contribué aussi à la gloire, mais à la gloire justifiée de Robert Badinter. C'est-à-dire que c'était le combat de Badinter depuis l'affaire Bontemps. On nous l'a rappelé à l'occasion de ces commémorations. Et c'est un moment à la fois de politique et, j'allais dire, d'éthique. En politique. Et c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui.
Allez-y, Blanche Leridan.
Courage de François Mitterrand, courage surtout de Robert Badinter. Il faut se souvenir un petit peu de son parcours quand il était avocat au début de sa carrière pour le cinéma français. Il aurait pu rester dans cette situation confortable et non, il a voulu aller aux assises, soutenir, vous l'avez dit, Bontemps dans ce procès Buffet-Bontemps qui avait évidemment secoué toute la France. Donc c'est immense. Qu'il a perdu en plus.
Puisque... Il scelle sa conviction, dit-il.
Exactement, et conviction qu'il a. C'est pas en une seule fois, c'est-à-dire qu'il a poursuivi ensuite pendant plusieurs années jusqu'à, disons, ultime étape de cet engagement contre la peine de mort, l'accession au poste de garde des Sceaux. Et puis, et là on en revient un peu aux dialectiques présidentielles, cette capacité dans les tout premiers mois du mandat, hein, parce que là on dit donc 9 octobre, donc dans les tout premiers mois du mandat, de porter ce texte-là à l'Assemblée nationale dans des conditions difficiles, hein, aussi avec des débats. Avec là aussi, je pense, Marc Lazare sera d'accord avec moi, parfois un peu populiste, pour le coup, du point de vue dans la bouche de ses opposants, avec une instrumentalisation, puis énormément de violence à son égard aussi. Donc c'est vrai que ce courage-là, il faut s'en souvenir aujourd'hui. Et pour réagir aussi au son que vous avez diffusé à l'instant, c'est vrai que dans la période où on est, cette semaine, elle était aussi marquée par le triste anniversaire des 2 ans du 7 octobre. On sait que depuis le 7 octobre, on a une recrudescence des actes antisémites en France. Les chiffres, ils sont impressionnants. Je crois que c'était plus de 1500 pour l'année 2024, plus de 1600 pour l'année 2023, contre, je crois, 430, quelque chose comme ça, en 2022. Donc, c'était aussi un combat de Robert Badinter, celui de la lutte contre l'antisémitisme, dont je crois qu'il faut qu'on se rappelle de toute la pertinence encore aujourd'hui.
Est-ce que cette pertinence, Louis Osalter, elle est partagée? Je ne cite juste une des réactions, elle n'était pas si nombreuse, mais quand même Éric Zemmour, un de vos anciens collègues du Figaro, qui a dit « la patrie n'est pas reconnaissante au ministre de la Justice qui, dès son arrivée place Vendôme, a vidé les prisons. C'est de l'humanisme abattardi en mondialisme qui tue la France ».
En fait, pour ce qui est de la peine de mort, il faut quand même regarder les enquêtes d'opinion, en effet. À l'époque où François Mitterrand se prononce contre la peine de mort, alors qu'il est en campagne électorale, une majorité de Français sont favorables à la peine de mort. Et ça, si vous voulez, c'est la grande politique. Dieu sait que François Mitterrand n'a pas toujours fait de la grande politique. Il est allé jusqu'à avoir le cynisme de faire monter le Front National pour desservir la droite, d'ouvrir à Jean-Marie Le Pen les portes de la télévision publique précisément dans cet objectif-là. Et je passe évidemment sur toutes les autres manœuvres politiciennes de François Mitterrand. Mais aller soutenir à la télévision, en campagne électorale, une réforme majoritairement impopulaire par éthique, parce que c'est pas simplement une réforme de la justice que mène Robert Badinter à l'époque. C'est un progrès civilisationnel. C'est-à-dire que c'est une rupture dans la conception qu'on se fait de la vie, de la mort, et du fait de s'interdire d'infliger la mort à quelqu'un qui l'a infligé à autrui. Donc, il y a cette rupture-là à ce moment-là. Et aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, la peine de mort, en fait, c'est 50-50. Il n'y a pas de majorité écrasante pour soutenir ce qui a été fait en 1981, qui est l'abolition de la peine de mort. Alors, ça n'est pas discuté directement. C'est-à-dire que c'est pas, Robert Badinter, effectivement, l'a incarné. Le débat n'est pas tant sur sa personne ou sur la décision prise à l'époque par François Mitterrand que sur la justice d'aujourd'hui. Et ça, je dirais qu'en fait, si débat il doit y avoir, parce qu'on doit débattre de l'héritage des grands hommes, même entrer au Panthéon, et les moments, les tentatives de communion nationale telles que celles que Emmanuel Macron a présidées cette semaine ne doivent pas nous empêcher d'avoir des débats sur la portée politique des actes des hommes et des femmes aujourd'hui décédés qui ont fait l'histoire politique récente. Robert Badinter, c'est pas seulement l'abolition de la peine de mort, c'est aussi le moment où la conception de la justice devient celle de sa conception était par exemple de trouver au maximum des alternatives à l'emprisonnement pour des raisons qui étaient légitimes, qui effectivement comme il expliquait lui-même, la prison est souvent criminogène, la récidive est très forte, il faut mener des réformes qui aillent dans le sens d'alternatives à la poursuite. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez dans quel état est le débat sur la justice. La grande majorité de l'opinion publique est convaincue que c'est une justice qui ne fonctionne plus, que les criminels ne sont pas suffisamment punis, qu'ils peuvent se retrouver libérés le lendemain d'une incarcération. Donc on voit bien que la façon dont évoluer, progresser ce débat, il fait que cette question n'est pas tranchée. Donc moins qu'Éric Zemmour qui revient toujours sur la peine de mort et qui est une des rares voix politiques à répercuter ce qu'une partie de l'opinion pense, mais qui n'est pas un débat ouvert entre les formations politiques. Ce qu'on discute aujourd'hui de Badinter, ça n'est pas ça. C'est en réalité l'idée qu'on se fait de la justice, d'une justice juste, certes, mais aussi efficace. Et ça, plus que jamais, c'est un débat qui est évidemment ouvert dans la société et que malheureusement, la crise politique, l'enquistement nous empêchent d'avoir. Et nous n'avons pas, à cause de cette situation politique, les débats sur ce genre de grandes questions qui préoccupent pourtant l'opinion et les Français.
Pour revenir sur un point que vous avez soulevé, on se demandait pourquoi François Mitterrand, qui n'était pas adepte des grandes déclarations idéologiques, etc., qui au contraire, dont on a retenu au contraire les manœuvres politiques, moi aussi je me suis demandé à l'époque pourquoi il prenait ce parti contre la peine de mort, étant donné que je l'avais souvent entendu dire, y compris à Robert Badinter, mais vous êtes complètement obsédé avec votre histoire, avec votre peine de mort, vous êtes complètement obsédé. Et puis, alors, Robert Badinter a raconté après que il avait, en réalité, il s'était débrouillé pour avoir le dossier de préparation de l'émission Carte sur table, dont on parlait tout à l'heure, et qu'il avait mis les citations de Victor Hugo en premier pour que François Mitterrand les voie en allant à l'antenne. Mais en réalité, François Mitterrand était un leader beaucoup plus médité que ça. Et c'est pas parce qu'il a vu quelque chose au dernier moment qu'il en a parlé. C'est qu'il avait besoin, peut-être, de trouver un thème sur lequel il soit capable de risquer son élection, au lieu d'apparaître comme quelqu'un qui avait un peu navigué dans la 4e République et qui se débrouillait dans la 5e. Au contraire, il avait besoin d'une affirmation solide et d'une affirmation peut-être contestée. Il avait besoin de mettre en jeu son élection, d'abord parce qu'il aimait mettre en jeu les choses les plus importantes, et ensuite parce qu'il disait « ça me donne une dimension que je n'avais pas jusqu'à présent ». Donc je crois que c'est très médité et très pareil. Alors maintenant, est-ce que on peut dire que la justice d'aujourd'hui dépend et dans la ligne droite de celle que voulait imposer Robert Badinter ? Non, peut-être pas. C'est vrai qu'on est peut-être tombé dans un extrait inverse où on condamne des hommes politiques à la prison facilement, mais en réalité, on absout un jeune homme qui a brûlé une voiture. Bon, c'est vrai que ça surprend nos concitoyens. C'est vrai aussi qu'on peut se poser des questions sur la justice actuelle et que c'est bon de continuer à s'en poser.
Avec peut-être ce symbole, je trouve que Gérald Darmanin, quand il est arrivé place Vendôme, il a supprimé ces fameux quartiers de haute sécurité. Enfin, il a rétabli, ces quartiers de haute sécurité que Robert Badinter, des années auparavant, avait aboli. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que c'est l'époque qui a changé? Est-ce que forcément, la situation n'est absolument plus la même dans les tribunaux français, Marc Lazare? Et qu'est-ce que ça dit de l'époque? C'est pour ça qu'on a choisi ces deux bornes-là, pour essayer de comprendre ces 40 ans qui viennent de s'écouler et la crise dans laquelle on est.
Oui, je voulais juste un tout petit peu revenir sur
Mitterrand.
Juste un point, est-ce que je me demande, mais Michel Cotin me démentira, s'il n'y a pas aussi chez lui, chez François Mitterrand à l'époque, le fait de faire cette déclaration pour faire oublier ce qu'il avait dit en 1954, lorsqu'il était ministre de la Justice, l'Algérie c'est la guerre et je serai impitoyable. Et donc, effectivement, le Parti Socialiste à l'époque est complètement différent, il faut se distinguer de la vieille SFIO, François Mitterrand n'en avait pas été membre, mais c'est l'idée de la rupture avec, comme vous l'avez dit, suggéré, la rupture avec le François Mitterrand de la 4e République. Bon, mais un jour, l'histoire tranchera là-dessus, et on essaiera de le comprendre un peu mieux. Oui, Astrid, vous avez raison. Il y a un climat, évidemment, différent, qui est pas simplement un climat. Il y a des questions d'insécurité de plus en plus fortes dans des sociétés où, justement, ce thème de la sécurité est vécu et à la fois instrumentalisé, alors là, justement, par un certain nombre de formations politiques, au premier rang, le Rassemblement National. Et c'est un élément, d'ailleurs, on peut faire le lien avec ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que dans toute l'Europe, et pas simplement en France, on voit la contamination d'un certain nombre de propositions par la droite, alors extrême ou radicale et souvent populiste, de la droite traditionnelle. C'est évident, par exemple, au niveau du Parlement européen, dans le cadre de ce qu'on appelle le Parti populaire européen. Et on voit bien que Gérald Darmanin, lorsqu'il a pris cette décision, c'est aussi avec cette idée que partagent beaucoup, y compris les Républicains, et notamment Retailleau, mais aussi Laurent Wauquiez, reprenons les thématiques du Rassemblement national pour essayer de justement les prendre à notre profit. Donc oui, là, incontestablement, il y a un détricotage de ce qu'avait fait Robert Badinter. Il y a un contexte aussi différent, je dirais un contexte aussi intellectuel. Il ne faut jamais oublier que Robert Badinter a été très influencé par les travaux à l'époque de Michel Foucault sur la prison. Et même s'il a toujours été en désaccord avec un certain nombre de propositions par Michel Foucault, mais c'était deux hommes qui dialoguaient. Donc oui, il y a un contexte différent. Je crois aussi que ce que l'on voit, c'est que Robert Badinter, je crois qu'il faut souligner quand même deux autres points. Le premier, c'est le grand défenseur de l'état de droit. Et cet état de droit, aujourd'hui, là encore, est attaqué par des formations populistes, mais aussi par une partie de la droite traditionnelle, que ça soit en France ou dans toute l'Europe, et notamment la critique contre les juges. Je veux dire, les juges sont la cible des formations de droite et de la droite radicale en France comme dans toute l'Europe.
Y compris par un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy lui-même, si on en croit sa défense.
C'est vous qui l'avez dit. Et dernier point de réflexion, en même temps, on insiste, dans les médias, on a beaucoup insisté sur cet aspect-là, mais je crois qu'il y a un autre aspect sur lequel il faut insister à propos de Robert Badinter, c'est l'universalisme républicain. Et là, c'est un désaccord complet avec une partie de la gauche radicale, qui aujourd'hui minore la laïcité, et dans la théorie différentialiste, reconnaître les différences. Et là, l'héritage de Robert Badinter, de ce point de vue-là, divise la gauche, et profondément, profondément, encore aujourd'hui.
Blanche Loridon, sur ce sujet, et peut-être pour élargir, qu'est-ce que ça nous dit aussi, cette façon de panthéoniser Emmanuel Macron? C'est une prérogative présidentielle pure, la panthéonisation, l'a beaucoup fait. Hein. Avec Marc Bloch au mois de juin prochain, ça fera 7, exactement comme François Mitterrand, en 14 ans, lui.
C'est un petit peu ce que je disais au début de notre émission, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de hiatus immense entre, d'un côté, ce désir. C'est quand même un président qui est féru de politique mémorielle, il aura battu donc le record, je ne sais pas ce que ça lui vaut, mais du nombre de panthéonisations réalisées sur l'ensemble de ces deux mandats. Et en même temps, il est en passe de battre aussi un autre record, celui du nombre de premiers ministres, puisque je rappelle qu'il en a, il en est à son cinquième. Mitterrand, je crois, en a eu 7 aussi.
Son cinquième en 2 ans.
En 2 ans, en plus, en 2 ans. Oui. Si on remonte encore plus loin, et donc c'est vrai qu'il y a cette dialectique un petit peu inversée avec l'idée de marquer l'histoire, d'avoir ces grands moments solennels, de souvenir des grands hommes et des grandes femmes qui ont fait l'histoire et qui ont fait la République, et puis d'un autre côté, l'instabilité désormais chronique, et puis ce rapport plutôt au temps court et l'incapacité à se projeter dans une temporalité nouvelle. Donc oui, est-ce qu'on retiendra plutôt la place des grands hommes ou la rue de Varennes à l'issue de ces deux mandats? Moi, mon intuition à ce stade, c'est qu'on retiendra plutôt l'instabilité finale que cette politique mémorielle dans laquelle le président essaie de s'établir. Donc c'est vrai que là, il y a une petite incompréhension entre le choc de ces temporalités-là. Je voudrais revenir sur la question de l'insécurité qui sera évidemment, je pense, au cœur de la campagne présidentielle de 2027. On disait tout à l'heure qu'il faudrait aussi qu'il y ait une autre question qui soit au cœur de cette présidentielle, c'est celle de la démocratie et des institutions. Et là, malheureusement, je suis pas très optimiste. On sait que c'est pas des sujets qui font la campagne. Et peut-être qu'il faudrait, c'est peut-être une autre façon de faire de la pédagogie autour. Mais moi, j'ai été très frappée par la campagne aux États-Unis l'année dernière, où Kamala Harris avait essayé de faire de la défense de la démocratie un des piliers de sa campagne présidentielle. Et on voit que c'était pas un sujet qui lui a permis de l'emporter. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire de ce renouveau démocratique, un sujet plutôt fédérateur, constructif, et ça je crois que c'est un travail qu'il faut commencer à faire dès maintenant, et malheureusement du fait du fonctionnement et de l'attitude des hommes et des femmes politiques aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à se dire que c'est un sujet qui va réussir à redevenir un sujet positif dans l'opinion.
Vous vivez dans des espaces où dès leur plus jeune âge vos enfants sont exposés aux pires contenus, et regardez l'épidémie de troubles mentaux, de troubles du comportement alimentaire de nos adolescents et de nos jeunes. Il est totalement corrélé à l'émergence de ces réseaux sociaux. Nous avons laissé s'installer des espaces publics où tout est fait pour ne plus raisonner. Puisqu'au fond, l'ordre de mérite, c'est que l'émotion est supérieure à l'argument et que l'émotion négative est supérieure à l'émotion positive. C'est un biais complet pour que nos démocraties aillent aux extrêmes, pour que le bruit et la fureur l'emportent sur l'argument raisonné, pour que rapidement la musique disparaisse, pour laisser place au cri, et dont les algorithmes sont faits pour favoriser l'excitation cognitive, la surréaction, le volume de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, favorisant là encore les extrêmes, parce que derrière le cœur de ces modèles, c'est la monétisation de vos présences pour le vendre à des publicitaires. Nous n'avons pas conçu nos démocraties pour ça. On est très loin de l'agora démocratique de l'Antiquité.
Et vous nous faites la transition, Blanche Le Ridon. Emmanuel Macron, depuis Sarrebruck en Allemagne, pour les 35 ans de l'unité allemande, le 3 octobre 2025. Je trouve que c'est intéressant de se pencher là-dessus, parce que c'est quand même ce qui a changé, finalement, dans ces 4 décennies. Vous parliez du temps politique. J'aimerais vous entendre tous les 4 sur cette question. Est-ce qu'on peut faire de la politique avec des tweets? Michel Cotta.
Non, ce qu'a dit Emmanuel Macron, nous avons laissé s'installer des réseaux. Je suis d'accord avec lui, on ne les a pas laissés s'installer, ils sont installés tout seuls. Là, on pourra à l'infini disserter sur est-ce que la révolution informatique a-t-elle des bons côtés. Oui, on peut dire que sur certains points, il y a des bons côtés, sur les points de la connaissance, l'échange, tout ce qu'on voudra. Mais effectivement, c'était un effet induit, un effet non attendu de l'informatique, qui est que tout le monde peut la partager, tout le monde peut partager son avis, et qu'après, chacun s'y reconnaît, chacun reste dans sa petite famille, chacun n'écoute pas les arguments des autres, et ça fait effectivement, c'est un chemin vers un isolement des parcours personnels, et un isolement et un éparpillement des parcours personnels. Ça, c'est vrai. Moi, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire d'autre. Je ne sais pas si on aurait pu l'interdire. On ne pouvait pas l'interdire. Donc, c'est très bien. Ça modifie les choses, c'est sûr. Ça modifie la conception de tout le monde. La France est un pays politique, dit-on. Par conséquent, tout le monde a sa petite idée politique. C'est vrai que ça change sûrement l'opinion publique. Ça, c'est vrai.
Louis Alter, journaliste au Figaro.
Ce qui me frappe sur la forme, dans l'intervention d'Emmanuel Macron, déjà, c'est que c'est terrible, mais on a un peu l'impression d'entendre un ancien président qui fait une conférence sur ce qui n'aurait pas fonctionné, sur les méfaits de tel ou tel phénomène social. Pourquoi ? Parce que son constat est parfaitement juste. Évidemment, moi, je souscris à ce qu'il fait, à ce qui ressort du constat. Mais on a envie de lui dire, que n'avez-vous fait ? Alors, pas lui tout seul, évidemment, il ne va pas réguler tout seul depuis l'Élysée des mastodontes américains qui ont pris possession des flux numériques d'une grande partie de la planète. Mais il n'empêche qu'il avait convoqué une commission écran, qu'il s'était activé à Bruxelles pour que l'Union européenne soit plus réactive et un instinct de puissance, c'est son mot, mais en tout cas de défense, face en effet à ce que nous ne maîtrisons pas dans ce nouveau monde numérique venu des géants américains. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, évidemment, non aux solutions simplistes. On ne va pas interdire Instagram, Facebook, TikTok, etc. Ne serait-ce qu'en raison du fameux état de droit dont vous avez dit un mot il y a un instant. Je crois que pour une grande partie de l'opinion, les réseaux sociaux, c'est d'abord une libération de parole, de liberté d'expression, et le fait que les journalistes, a fortiori, mais les médias, les émetteurs institutionnels, ne soient pas les seuls détenteurs de la parole dans le champ d'expression des opinions. Et ça, je trouve ça, dans l'intuition initiale, parfaitement sain, et on ne va pas revenir en arrière là-dessus. Le problème, c'est la démocratie algorithmique, qui n'est plus une démocratie. Ce qui éclaire très bien ça, c'est ce que Giuliano D'Ampoli écrit dans L'heure des prédateurs, c'est-à-dire que dans son livre, les prédateurs, ce ne sont pas seulement des autocrates comme Xi Jinping ou des dirigeants comme Donald Trump, qui en effet ont un comportement vis-à-vis notamment des puissances étrangères de prédateurs, c'est aussi et peut-être avant tout les patrons de ces grands réseaux sociaux qui agissent dans un cadre qui est adémocratique. D'abord parce qu'il n'y a pas de frontières et que leur véhicule de puissance numérique, ils peuvent l'étendre à l'infini, en tout cas jusqu'à temps que la planète ait des frontières et des émetteurs de communication qui permettent d'atteindre tous les smartphones. Mais surtout, ce sont eux qui ont la main sur ces algorithmes-là. Et on voit à quel point cela est intriqué avec le politique, à leur attitude, par la façon à laquelle ils ont réagi à l'élection de Donald Trump. La surmodération d'avant qui conduisait parfois à des censures trop importante de certaines opinions, de certains contenus véhiculés, parce qu'avant c'était Joe Biden au pouvoir, a laissé place à l'extrême inverse, c'est-à-dire la non-régulation, la non-modération des plateformes, simplement parce que Donald Trump a été élu et que Mark Zuckerberg, Elon Musk et compagnie sont allés lui faire allégeance. Et nous, Européens, nous subissons totalement ça. Il y a un sujet industriel et technologique, évidemment, parce que nous n'avons pas su faire émerger des géants du numérique de la même génération que les Facebook, Twitter, Instagram, etc. Mais il y a aussi, évidemment, un sujet de protection, de défense, autrement dit, de souveraineté française et également à l'échelon européen, qui fait de nous des purs spectateurs et des victimes collatérales de ce qui s'est passé sur le continent américain.
Blanche Le Ridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne.
Louis Osalter a mentionné un ouvrage de Giuliano D'Ampoli, Les ingénieurs du chaos. Je voudrais en mentionner un autre, c'est L'heure des prédateurs, qui explique parfaitement...
Les deux sont bons. J'ai mentionné L'heure des prédateurs, mais les ingénieurs du chaos...
Les ingénieurs du chaos, et puis surtout qui explique parfaitement comment est-ce qu'on manipule les algorithmes à des fins politiques, et surtout comment une partie de la classe politique s'en est emparée de façon plus précoce et peut-être plus habile que les autres. Il y a notamment tout un chapitre qui concerne une formation politique que Marc Lazare connaît bien. C'est la Lega de Matteo Salvini et son algorithme La Bestia. Et on voit à quel point il a réussi, par l'habileté algorithmique, à réussir à cranter sur un certain nombre de sujets dans l'électorat. Alors ensuite, il s'est effondré ensuite. Et donc c'est là d'ailleurs où on voit les limites de ces mécanismes-là. Mais c'est vrai qu'on sait qu'il y a une habileté particulière des mouvements nationaux populistes sur ces réseaux sociaux, et d'ailleurs, qui n'est pas nouvelle. Souvenez-vous quand même que le Front National était le premier parti de France à avoir un site internet. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas accueillis sur les grandes chaînes de télévision à l'époque, donc c'était une manière pour eux d'exister dans un ailleurs qui était une alternative aux médias mainstream où ils n'étaient pas accueillis à l'époque. Et donc cette avance, ils l'ont conservée aussi dans leur usage des réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc on sait par exemple que l'immense succès de Jordan Bardella aux élections européennes de 2027 s'est joué sur TikTok. Et alors pas joué par un algorithme redoutable ou des messages politiques et idéologiques très percutants, mais par des vidéos badines et anodines d'un Jordan Bardella qui mangeait des bonbons avant d'entrer en meeting. Et c'est ça qui a plu à ce moment-là. Et cette habileté immense, tous ne l'ont pas. Et c'est ces partis-là qui ont été les premiers à être sur TikTok et qui ont été les premiers à cranter aussi un électorat plus jeune qui s'informe désormais en majorité sur les réseaux sociaux et qui a voté ensuite pour son parti aux élections de l'année dernière.
Le mot de la fin pour vous, Marc Lazare, après on passe à vos coups de cœur. Et j'ajoute quand même, je suis allée réécouter Emmanuel Macron le 31 décembre 2024 dans ses vœux qui disait aux Français, vous aurez des choix à trancher. Hein. Il préconisait sans doute des référendums. Et il avait aussi promis d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans si l'Union européenne ne s'en chargeait pas en juin 2025. Peut-être que ça ajoute aussi à la défiance, ce genre de...
Oui, je crois que c'est important, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je rajouterais un point, c'est que justement, ces géants du numérique aux États-Unis sont en train de dissocier la liberté dont ils se réclament de la démocratie. C'est-à-dire que pour eux, maintenant, ils en viennent à dire que la démocratie étouffe les libertés. Et d'ailleurs, ça a été le discours de Vance, le vice-président, en février de cette année, à Munich, qui a tellement ébranlé une partie, pas tous, parce qu'il y a, j'allais dire, une partie des responsables politiques, mais il y en a d'autres qui ont trouvé ça très bien. Madame Meloni a dit qu'elle partageait une grande partie de ce qu'avait dit le vice-président Vance à Munich. Deuxième réflexion, oui, on est rentré dans cette temporalité de l'urgence. Et cette temporalité de l'urgence a des effets... Alors, ça a toujours existé en politique, mais c'est encore plus aujourd'hui, aimer les responsables politiques qui essayent d'avoir des discours un peu complexes dans une situation particulièrement difficile. Enfin, troisième point, juste pour nuancer un peu tout ça, tout n'est pas la faute des réseaux sociaux. Si nous sommes dans cette situation démocratique, bien sûr, les réseaux sociaux accentuent ce dont on a parlé, la défiance politique, on pourrait rajouter aussi la crise sociale, en tout cas un certain nombre de désagréments sociaux qui sont très très mal vécus, en particulier en France, peut-être là encore plus que dans d'autres pays. Nous sommes le pays de la passion de l'égalité, disait Tocqueville. Et puis, la crise culturelle, notamment liée à la diversification des sociétés et à la question de l'immigration.
Allez, c'est l'heure de retrouver vos coups de cœur. Et je commence avec vous, Louis Osalter, journaliste au Figaro, auteur de ce livre que je recommande à titre personnel. Ce sera mon coup de cœur. La foudre et les cendres, Macron, les secrets d'une succession interdite. D'ailleurs, dans lequel vous citez Peggy qui dit « Est-on dans une époque ou une période ?»
Oui, j'aurais aimé que vous nous disiez ça. Il distingue les périodes et les époques. C'est dans Clio, qui est donc un écrit posthume, parce qu'il est mort à la guerre, comme chacun sait. Et en effet, il différenciait ce qui relevait des périodes, qui sont en fait des plats, où on sent que rien d'historique ne se joue, et des époques. Et du coup, c'est pour ça que je m'en sers pour essayer de caractériser ce qui nous arrive. Je n'arrive pas à le faire, parce qu'on n'a pas la fin de l'histoire, mais je pose la question de savoir si, en effet, nous n'entrons pas dans une nouvelle époque, non seulement en raison de cette crise politique, mais aussi pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, les réseaux sociaux ne sont pas l'une des moindres.
Et il faut qu'on termine. Alors, votre coup de cœur, Louis.
Alors, c'est un autre livre que, pour le coup, j'aurais été bien incapable d'écrire, mais qui est vraiment passionnant. Ça s'appelle Le Moine et l'Apsara. Alors, rien à voir avec ce dont on s'est parlé. On s'est pas très loin. C'est au Cambodge. Et c'est une histoire d'amour avant tout, sur fond de ces années 70 au Cambodge, où évidemment les Khmers rouges vont semer la terreur. C'est une histoire d'amour, mais où se rencontrent à la fois l'histoire, la spiritualité, la psychologie. C'est écrit par quelqu'un que je connais, qui s'appelle François Huzard, qui est à la fois professeur d'histoire, mais qui a aussi habité au Cambodge et qui, à ce titre, connaît très bien la culture, les lieux dont il décrit dans ce livre, Le Moine et l'Apsara, aux éditions de L'Armatan.
Il peut-être aidera notre Premier ministre, qui se considère lui-même comme un moine soldat. Blanche Le Ridon.
On a appris cette nuit la mort de l'immense actrice Diane Keaton, vous savez, l'actrice américaine qu'on connaissait notamment pour son jeu dans Le Parrain, dans Annie Hall, dans un certain nombre de films de Woody Allen. Donc moi, je veux recommander le revisionnage d'un film que j'adore parce qu'il est d'une drôlerie, d'une intelligence folle. C'est Meurtre mystérieux à Manhattan de Woody Allen de 93. C'est l'un de mes préférés, donc je pense que c'est un excellent film de dimanche soir.
Très cinéphile, la directrice de l'Institut Montaigne. Allez-y, Marc Lazare.
Un autre film qui est sorti mercredi, Berlinguer. La grande ambition, Enrico Berlinguer était le dirigeant du Parti communiste italien. Le film se focalise sur la période 1973-1978. Alors, pour les jeunes spectateurs, puisque c'est en salle, ou pour les spectateurs, on apprendra des choses sur la politique italienne. Mais pourquoi je le cite? Parce que c'est un homme qui dirigeait le plus puissant Parti communiste de l'Europe occidentale et qui a tenté un compromis. On a beaucoup parlé de compromis. Le fameux compromis historique avec la démocratie chrétienne, ça échouera, mais ça fait réfléchir sur comment un leader, justement, d'un parti communiste a tenté de proposer à la démocratie chrétienne et Aldo Moro qu'il paiera de sa vie puisqu'il sera enlevé par les Brigades Rouges et assassiné au bout de 55 jours de détention abominable, de tenter un compromis pour sortir d'une situation politique qui semblait inextricable.
Merci Marc Lazare. Et à vous Michel Cotard.
Un livre aussi. Un livre qui n'a vraiment pas besoin qu'on lui fasse de publicité, parce qu'il y aura sûrement des dont l'auteur a eu des millions et des millions de lecteurs. C'est le livre de Dan Brown, et ça s'appelle Le secret de tous les secrets. Alors, simplement un conseil, il faut pas commencer le livre au début de la nuit, parce qu'on ne dort pas. mais c'est un livre vraiment formidable. On comprend rien à l'argumentation, mais le déroulement policier est formidable.
Merci à tous les quatre d'avoir été là pour l'Esprit public. Louis Osalter, journaliste politique au Figaro, Michel Cotta, autrice de Ma Cinquième, encore une recommandation, édition bouquin en 2023, Blanche Le Ridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, et Marc Lazare, professeur émérite d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po et à l'Université Louis à Rome. Je cite votre ouvrage qui sort le 30 octobre pour l'amour du peuple, c'est chez Gallimard. Et merci à vous de nous avoir écoutés comme tous les dimanches matins. Je rappelle que vous pouvez réécouter, retrouver cette émission comme toutes les autres sur le site de France Culture et l'application Radio France. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner au podcast de l'Esprit public sur l'application Radio France ou sur toute autre plateforme. On se retrouve dimanche prochain à 11h. Très bel après-midi à l'écoute de France Culture.